Amen. Et ce matin, on va continuer dans ce même élan, c'est-à-dire celui de l'unité, celui de l'importance de venir ensemble, celui de l'importance de marcher, comme on va voir, d'un même pas, à travers la mission, la vision, oui, de l'Église locale, mais au-delà de ça, de cette vision, de cette mission que le Seigneur lui-même nous donne. Amen. Et avant d'aller plus loin, je m'excuse, juste un petit mot au niveau des parents, OK? Les enfants, on les laisse aller maintenant, ça a bien été, seuls, mais vous devez quand même aller les chercher après. Vous devez quand même, à la fin du message, aller les chercher en bas. Eh oui, donc juste un petit mot qu'on avait oublié de mentionner tout à l'heure. Donc, ceci dit, je vais vous emmener tout de suite dans la parole, si vous voulez bien, si vous avez vos Bibles avec vous. Tournez avec moi Actes chapitre 4, au verset 32. Amen. Petit passage, court verset, mais comme on va voir ensemble aujourd'hui, qui est rempli de vérité pour nous. Donc, Actes chapitre 4, au verset 32. Donc ici, on se ramène où? On se ramène au début, un peu, en fait, de l'Église, hein, lorsque le Seigneur Jésus est parti, il a dit à ses disciples d'attendre qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, sont allés dans les rues, ont prêché la parole, se sont fait arrêter, persécuter, et toutes sortes de choses leur sont arrivées, mais il y a également une multitude de gens qui ont cru à leur message. Amen. Qu'à travers leur témoignage, qu'à travers le fait que le Seigneur lui-même rendait témoignage de la vérité qui sortait d'eux par les signes, les miracles et les prodiges, la parole de Dieu nous dit que plusieurs personnes ont cru. Et en Acte 4, 32, la parole de Dieu nous dit ceci: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et on voit quelque temps avant que la parole de Dieu, on sait qu'ils étaient au moins 3000 à ce moment-là. Amen, parce que le Seigneur, la Bible nous dit, rajoutait à tous les jours ceux qui croyaient, ceux qui mettaient leur foi en Dieu. Donc, il y avait des milliers de personnes qui, à ce moment-là, venaient de se joindre à l'Église. Et la parole de Dieu nous dit ici que ces milliers de personnes venant d'arrière-plans différents, d'enseignements différents, de religions différentes, des Juifs, des Grecs et toutes sortes de personnes sont venues réunies ensemble. Mais la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur. Un seul cœur, malgré les différences, malgré les personnalités de chacun, malgré les... peu importe, un cœur. Ça signifie quoi avoir un cœur, un même cœur? C'est ce que je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui. Parce que si on regarde juste le corps, amen, le corps est composé de plusieurs membres, mais un seul cœur. Un seul cœur dont la fonction principale, c'est quoi? C'est d'alimenter le reste des membres, hein, d'assurer la circulation de sang. Okay? C'est le mandat principal du cœur, d'assurer la circulation du sang, de nourrir les autres membres. Pourquoi? Parce qu'à travers cette circulation-là, les autres membres du corps sont nourris, notamment avec l'oxygène dont ils ont besoin. L'oxygène dont chaque membre a besoin afin de vivre. Donc, ce cœur-là qui non seulement nourrit et alimente les autres membres, ce cœur-là est également, le cœur est également un muscle. Amen? Un muscle qui, les personnes ici qui ont eu des problèmes au cœur, je pense que vous pouvez comprendre que lorsque votre cœur est affaibli, le reste de votre corps l'est également, n'est-ce pas? Amen. C'est un muscle qui donne la force au reste des membres. Okay? Qu'en réalité, ton corps, tes muscles, autant peu importe le potentiel que chacun de tes muscles, chacun de tes membres ont, ils sont dépendants de la force de ton cœur. Tes muscles ne peuvent pas forcer davantage que ton cœur est capable de soutenir. Parce que lorsque tes muscles forcent, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir du sang qui va vers tes muscles. Et si ton cœur n'est pas capable de fournir tes membres efficacement avec le sang, eh bien ton muscle, peu importe ce que tu essaies de lui faire faire, ton membre, peu importe la donnée que tu lui envoies, ne sera pas en mesure de le faire au maximum de ses capacités. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que corps, la Bible nous dit quoi? Que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes corps, nous sommes membres les uns des autres, et Christ est la tête de chef. Donc, alors que nous nous réunissons ensemble, c'est important de nous demander, c'est important de s'arrêter, de nous interroger sur c'est quoi? C'est quoi avoir le même cœur? Amen. C'est quoi partager le même cœur avec quelqu'un d'autre? C'est quoi marcher, amen, cœur à cœur avec quelqu'un? Et une des choses, le cœur, c'est quoi dans notre vie? Le cœur, on peut dire, c'est quoi? C'est la motivation, le désir. Que lorsqu'on marche ensemble dans un même cœur, on est appelé, pardon, à marcher, à être plutôt dirigé par une même motivation. Amen. Et je vais vous lire ici une définition de la motivation que je trouve très claire et qui s'applique à nous. Donc, la motivation, c'est quoi? On dit ici, la motivation est l'ensemble des facteurs déterminant l'action ou le comportement d'un individu, pardon, pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. Qu'est-ce qui te pousse à agir? En quelque sorte, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez fort pour te pousser à agir? Des fois, on a des objectifs, amen. On peut avoir un objectif de santé, on peut en avoir un objectif très simple, de prochainement, au début de l'année, ça va être quoi? Les objectifs de mise en forme, de perte de poids. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive assez pour atteindre cet objectif-là? Parce qu'avoir des rêves, des objectifs, tout le monde en a. Avoir des rêves, des objectifs, c'est pas si compliqué. Tu fermes les yeux, normalement, il peut y avoir quelque chose qui vient. Mais avoir la motivation pour atteindre ses rêves et ses objectifs, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui te motive? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous avons des rêves, des aspirations, des désirs que Dieu a mis dans nos cœurs? Des visions que Dieu a mis dans nos cœurs? Et avons-nous la motivation ensemble de voir la réalisation de ce que Dieu a mis dans nos cœurs? Parce qu'ici, on va fermer les yeux 5 secondes à peine. Et je vais vous dire, prenez 5 secondes pour imaginer une église remplie de la gloire de Dieu. Prenez quelques secondes pour imaginer une église remplie de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu. Une église remplie où le Seigneur confirme sa parole par les signes, les miracles et les prodiges. Une église remplie où les gens viennent recevoir ce que le Seigneur a pour eux. Recevoir la guérison, recevoir le pardon, recevoir la miséricorde, recevoir les vies restaurées. Amen. Recevoir ce que le monde promet mais n'est pas en mesure de donner. Je pense que ce n'est pas trop compliqué de s'imaginer ça. Mais qu'est-ce qui va nous motiver ensemble? Est-ce qu'on va arriver au début de l'année, faire notre liste d'objectifs et un mois plus tard, on va quitter le gym? Est-ce qu'on va arriver, se joindre à l'église, tout feu, tout flamme, mais un mois plus tard, on commence à critiquer? Ah, ça, ça ne fonctionne pas. Ah, si, ça fonctionne. Ah, moi, je ferais les choses comme si. Où est-ce qu'on va se mettre ensemble pour dire ensemble, on va voir la réalisation de ce qu'on voit ici? Amen? Parce qu'il y a une chose que je dois dire, c'est qu'il y a des choses que je vois. Et la réalité, c'est que je n'arrêterai pas tant aussi longtemps que je ne verrai pas la réalisation des choses que je vois. Mais aujourd'hui, mon désir, c'est que vous puissiez vous joindre à moi. Okay. Mon désir, c'est que vous puissiez vous joindre à moi. Okay. C'est qu'on puisse ensemble voir cette réalisation-là. Amen. Donc, qu'est-ce qui, encore une fois, nous motive? Et cette définition-là continue en nous disant, c'est la combinaison, Hein, la motivation, c'est quoi? La combinaison de l'ensemble des raisons, conscientes ou non, collectives et individuelles, qui incitent l'individu à agir au sein d'une équipe. Qu'est-ce qui te motive à te joindre à d'autres pour un but qui est beaucoup plus grand que toi-même? Et on pourrait croire que ce sens-là, moi, je suis quelqu'un d'équipe. Et oui, ce sens de l'équipe a été développé à travers mon expérience dans le sport, à travers les différentes équipes sportives, mais ce n'est pas de là que je le tiens. Le sens de l'équipe, je le tiens de ma famille. La manière dont j'ai grandi. Parce que moi, chez moi, nous sommes 5 enfants. 5 enfants, j'ai 2 frères, 2 sœurs, je suis le 2e d'une famille de 5 enfants. Et dans ces 5 enfants, le 4e, mon frère, est handicapé, il souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Et ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, il n'est pas capable de marcher tout seul, il n'est pas capable de se laver tout seul, il n'est pas capable d'aller aux toilettes seul, il est à peine capable de manger seul. Okay? Donc, quand tu grandis avec quelqu'un aux prises avec ça dans ta famille, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous êtes les autres, les frères et sœurs, qui décident un jour, on est devant la télé, on en a assez de regarder la télé, donc nous, on s'en va jouer dehors. Ça prend pas beaucoup de temps, aller jouer dehors. Ben, je mets mes souliers, hop, on est sorti, c'est fini, on sort le ballon, nous, on joue dehors. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un dans sa chaise. Et lui, il ne peut pas y aller dehors aussi rapidement que toi. Donc, pendant ce temps-là, tu te retrouves dehors à jouer au ballon avec ton frère et que là, un jour, à un moment donné, tes yeux se tournent et tu vois ton autre frère qui est comme ça, à l'intérieur de la maison, qui vous regarde. Et là, tu dis, ah. Donc, tu appelles ton frère, tu appelles ta sœur. On prend chacun notre côté de la chaise roulante et on descend les marches. Parce qu'aujourd'hui, chez moi, on a un élévateur, on a aussi quelque chose qui part de sa chambre jusqu'à la salle de bain. Donc, ça le prend dans son lit, c'est mécanique, donc ça le prend dans son lit, ça l'amène directement dans la baignoire pour pas qu'il y ait personne qui ait besoin de le transporter. Mais à l'époque, on n'en avait pas de ça chez nous. Donc, il fallait le transporter nous-mêmes. Et à un certain âge, il est devenu trop lourd pour le traîner avec sa chaise roulante. Donc, ça signifie quoi, ça? Ça signifie qu'il y en a 2 qui doivent prendre la chaise roulante et il y en a 1 qui doit descendre les marches avec lui dans ses mains pour qu'ensuite on le mette dans la chaise et qu'on le traîne avec nous, qu'on le promène partout. Et c'est le même processus quand tu décides que, ah, j'en ai assez de jouer, je rentre à la maison. Il ne peut pas rentrer à la maison tout seul. Je vais aller me promener, je vais aller au parc qui est à 2 minutes de chez moi. Mon frère veut venir avec moi. Okay. Prends sa chaise. Je le traîne avec moi au parc. Tu comprends? Lorsque tu as une motivation qui va au-delà de toi-même, on comprend tout le sens du travail d'équipe. Que lorsque je voyais ma sœur qui sort mon frère du lit, qui lui donne son bain et qui fait tout, à un moment donné, tu dis, bon, OK, je vais aller préparer son déjeuner. Je vais lui donner au moins à manger. OK? C'est que tous les 4, sans négliger mes parents, évidemment, là-dedans, on se met ensemble pour son bien-être à lui. Puis notre motivation, c'était quoi? Simplement son bien-être à lui. Ma motivation, c'était quoi? Je ne pouvais pas endurer de le regarder par la fenêtre de la maison à l'intérieur pendant que je m'amusais dehors. Fait que tu te lèves, même si ça ne te tente pas. Parce que le même si ça ne te tente pas, ça ne dure pas si longtemps. Parce que tu es motivé par quoi? Tu es motivé par la seule chose, en fait, qui devrait nous motiver en tant qu'enfants de Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est la base, c'est le fondement de toute chose. Parce que l'amour fait quoi? L'amour cherche les intérêts de son prochain avant les siens. Hein? Et pour moi, ce n'était pas de marcher dans l'amour que de laisser quelqu'un se débrouiller seul. Et ce n'est pas seulement se débrouiller seul, c'est que sa vie dépend de nous. Sa qualité de vie dépend de nous. S'il n'y a personne qui va le chercher dans son lit, il passe la journée au lit dans sa chambre. S'il n'y a personne qui va lui préparer à manger, qui lui donne à manger, il ne mange pas. Amen. Donc, ça enlève un peu le regard du moi. Et notre motivation, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 13, 1 à 4 nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Peu importe ce qu'on veut voir, peu importe ce qu'on désire faire, si la motivation à la base, ce n'est pas l'amour, réfléchissez à vos actions. Sondez votre cœur à savoir, est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est motivé par l'amour? Parce que ce qu'on lit ici, si ce n'est pas le cas, je suis désolé, ça ne sert à rien. Si tu donnes, la Bible nous dit aussi, si tu donnes tout ton argent, tu donnes aux pauvres, tu donnes à ceux qui sont dans le besoin, tu donnes à des œuvres et tout. Si ça, ce n'est pas motivé par l'amour, ça ne donne rien. Amen. Aux yeux de Dieu, éternellement, ça n'a pas de poids. Oui, j'ai donné à quelqu'un, l'argent lui a servi, évidemment. Mais pour moi, pourquoi j'ai fait ça? Pour recevoir un retour, pour un désir égoïste, pour qu'on dise « voici combien cette personne-là est généreuse » ou c'est simplement par amour, ou c'est la compassion, ou c'est le fait de voir cette personne-là dans le besoin et de dire « je vais assister à son besoin ». Amen. Parce qu'à quelque part, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu était tellement débordant d'amour pour le monde et pour les enfants qu'il a créés, qu'il les a regardés, il a dit, je ne peux pas les regarder comme ça, les laisser mourir. Je ne peux pas laisser la création à travers laquelle j'ai déversé tellement de mon amour, à travers laquelle j'ai créé à mon image même. Cette création que j'ai préparé des plans pour eux parfaits jusqu'à la fondation du monde, cette création à laquelle j'ai destiné au bonheur, je ne peux pas les regarder comme ça sans rien faire. Je les ai tant aimés, je leur donne mon Fils unique. Et Jésus dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. L'amour, c'est notre motivation. L'amour de Dieu, l'amour de Christ, mais l'amour des uns des autres également. Avoir le même cœur, oui, c'est la même motivation, mais avoir le même cœur, c'est aussi le même rythme, le même battement. Amen, parce que, encore une fois, on vient avec cette image qu'on a un seul cœur qui nourrit tous les membres du corps. Amen. Mais chaque membre reçoivent au même débit. C'est-à-dire que le cœur, il a un rythme. Amen? Il a un rythme cardiaque. Il n'a pas un rythme cardiaque différent pour chaque membre. Hein? Il bat avec un rythme constant. que normalement, au repos, comme maintenant, là, hein, un adulte en santé, 70, 90 battements minute, normalement. OK? Normalement. Donc, ce corps, ou plutôt ce cœur, bat à un rythme constant. Et oui, le cœur, pardon, est un muscle. C'est beau de donner la force. Mais c'est autre chose que cette force-là suive le même rythme. Qu'est-ce que je veux dire par là? On m'a invité un jour à me joindre à une équipe de bateaux dragons. Et faire des compétitions de bateaux dragons qui sont des longs bateaux, des longues embarcations qui rentrent une quinzaine, voire 20 personnes dedans. Et donc, c'est des compétitions, tout simplement. Le but, c'est de ramer le plus vite possible, le plus loin possible. C'est très physique, c'est très demandant physiquement. Et malheureusement, j'ai dû décliner cette offre-là parce que, bon, les entraînements et tout ça, les compétitions n'arrivaient pas bien dans mon horaire. Mais vous savez qu'au bateau dragon, c'est une chose d'avoir le muscle. C'est une chose d'avoir la force. Mais si chaque membre dans le bateau ne rame pas au même rythme, ça ne mène nulle part. Ça va faire quoi en fait? Ça va faire que tout le monde go! Tout le monde va go. Le but c'est, je suis en forme, je rame le plus fort, le plus vite, le plus vite, le plus vite, le plus vite. Tu vas ramer fort, tu vas t'épuiser, mais tu n'accompliras pas grand-chose. Au contraire, si on garde le même rythme, on va ramer moins fort. On va économiser nos forces et on va aller beaucoup plus loin. C'est ça la réalité. Parce que tu as cette personne-là qui est en avant du bateau, hein, qui crie. Qui crie les instructions, qui encourage le reste de ceux qui sont dans le bateau, qui rament, qui les aide. S'il y en a un, justement, qui se fatigue un peu, qui perd un peu le rythme, il s'assure que chacun conserve le même rythme. Et dans les entraînements, c'est ça. Dans les entraînements, c'est, oui, je les vois, ils étaient au gymnase, ils s'entraînaient physiquement et tout ça. Mais dans les entraînements, il y a un côté important, c'est quoi? C'est s'assurer qu'on a la même cadence. Parce que sinon, ça déséquilibre le tout. On l'a vu aux Olympiques, hein, il y avait, je pense, l'équipe canadienne qui étaient en demi-finale ou quoi que ce soit, puis ils ramaient, ils étaient deuxième ou premier, ça s'en allait bien, leur histoire, et tout d'un coup, il y en a un qui, oh, la rame lui glisse entre les mains. Les autres n'ont pas ralenti. Ils ont continué à ramer aussi fort. Mais c'était peine perdue. Automatiquement, tu as vu, ils ont perdu de la vitesse. Et les autres équipes les ont rattrapés. Si nous sommes pour être dans le même bateau, ça va être important que tout le monde non seulement prenne sa rame, mais que s'assure de pagayer au même rythme que les autres. Hein? Quand on parle de rythme, on parle de quoi? De mélodie aussi. Hein? Quand on écoute de la musique, quand on accorde un instrument, on le voit tout de suite quand un instrument est désaccordé. Hein? Tu n'as pas connaître la musique. Quelqu'un va jouer du piano, puis tout d'un coup va faire une note. Tu vas faire, je connais pas grand-chose de la musique, mais il me semble que cette note-là est désaccordée. Amen. Et nous sommes appelés ensemble à offrir une mélodie au monde. Nous sommes appelés ensemble à offrir un chant nouveau au monde. Mais pour ça, waouh! Il va falloir qu'on vienne ensemble. Pour ça, il va falloir qu'on affûte chacun nos instruments. Il va falloir qu'on perfectionne chacun nos instruments. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien de plus beau que lorsque tout le monde marche ensemble en unisson. Amen. C'est une des plus belles choses qui m'a été amenée à voir quand je travaillais à la base militaire à Saint-Jean-Baptiste. À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, pardon. C'est une des plus belles choses qui m'a été donnée de voir. C'est quoi? C'est une parade militaire. À la graduation, à la fin des 12 semaines d'entraînement, hein, d'assister à une parade, la parade de graduation, et c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, premièrement, parce qu'ils sont avec leur uniforme de parade et tout ça, de graduation, puis c'est vraiment clean, c'est vraiment un bel uniforme et tout ça. Mais de l'autre côté, tu le vois, écoute, aussi heureux qu'ils sont, ils ont le visage. Ils sont dedans, là. Concentrés. Et chaque petit geste qu'ils font, que ce soit tourner à gauche, à droite, lancer le fusil, faire une rotation, demi-tour, un tour, écoute, c'est à la perfection. C'est impressionnant. Tu prends un soldat de côté qu'il fait lui-même parfaitement, waouh, c'est beau, mais tu en prends 50 qu'ils font ensemble parfaitement, au même temps, tu dis, waouh, c'est génial, c'est exceptionnel. Parce que tu sais tout le travail que ça demande pour arriver là. Ah, c'est facile de faire son show tout seul, là. Mais c'est autre chose de venir ensemble. Hein? C'est autre chose de mettre le temps. C'est autre chose de piler sur, hein, des fois, oui, notre orgueil, disons-le. Et de décider de joindre nos forces avec d'autres. Donc, oui, c'est la même motivation, le même battement, mais également, finalement, c'est quoi? C'est aussi avoir le même langage. Déclarer les mêmes choses. Parler les mêmes choses. Et on peut facilement s'imaginer, de dire, bon, deux personnes qui ne parlent pas la même langue, la difficulté qu'ils ont à se comprendre. Mais ici, parler le même langage, ça va beaucoup plus loin que le langage naturel, parce qu'on sait très bien que, des fois, il y a deux personnes qui sont face à face, qui parlent exactement la même langue et qui ne se comprennent pas plus. Hein? Ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous parle, vous faites Oui. Ah oui, oui, oui. Et finalement, tu n'as aucune idée de ce qu'il vient de dire, là. OK? Oui, ça m'est déjà arrivé. Il faut parler le même langage. C'est important pour que l'autre personne nous comprenne. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand ma femme a fait l'annonce pour les enfants et quand elle a commencé à s'adresser aux enfants, une petite voix bon, les amis. Hein? Si tu t'adresses à un bébé, écoute. Oh, comment ça va? Oui, bébé. OK? Les petits, je ne suis pas très bon là-dedans, comme vous pouvez voir. Ce n'est pas mon langage préféré. Mais tu dois, à quelque part, t'accorder avec le langage de l'autre. Et c'est une humilité de dire, mais je vais être le premier à faire, de dire. Au lieu d'obliger, par exemple, le bébé à comprendre mon langage, je vais essayer, moi, au contraire, de m'adapter pour que lui puisse comprendre le langage. Et aujourd'hui, c'est justement ça, beaucoup de relations de couple, beaucoup de relations parents-enfants ont de la difficulté parce que les gens se parlent et ils ne se comprennent pas. Donc, on peut se retrouver à l'église, on parle soi-disant de la même affaire, tout le monde parle de Jésus, tout le monde parle de Dieu, mais en réalité, lorsqu'on va plus profond, on ne se comprend pas. Parce qu'à travers ça, chaque personne a leur propre vision, a leur propre désir, justement, leur propre motivation. Et on se dit oui, mais finalement, c'est non. Il faut apprendre à parler le même langage. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'histoire de la tour de Babel, c'est quoi? C'est que tout le monde parlait la même langue. Hein? On va lire Genèse 11. Okay, Genèse 11, verset. On va commencer au verset 6. Donc, ils sont ensemble, ils parlent tous la même langue, et leur désir, c'est quoi? Ils disent, allez, on va se bâtir une tour qui va aller jusqu'au ciel, on va se faire un nom. Amen? Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit au verset 6? Et l'Éternel dit, voici, Genèse 11, 6, voici, ils forment un seul peuple, et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que tu as le même cœur lorsque tu parles le même langage que quelqu'un et que vous vous accordez ensemble? C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit. Hein? Si deux d'entre vous s'accordent ensemble pour demander quelque chose, amen. Si on parle le même langage, rien. Ici, c'est Dieu qui parle lui-même, là. Ici, l'Éternel Tout-Puissant parle lui-même et dit, rien ne pourra donc leur empêcher d'accomplir ce qu'ils ont décidé. Donc, la solution de Dieu, pourquoi? Pour leur empêcher de faire ça, parce que leur motif n'était pas bon. Leur motivation n'était pas bonne. Ça a été quoi? De confondre leur langage. Mes amis, tant aussi longtemps que nous ne parlerons pas le même langage, il va y avoir des divisions, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir des offenses, il va y avoir toutes sortes de choses. Le genre de choses qu'on ne veut pas voir. Le genre de choses qu'on ne veut pas vivre. Est-ce qu'il va y avoir des occasions pour être offensé? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des occasions pour avoir des conflits? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des occasions pour avoir des divisions? Oui. Mais est-ce que lors de ces occasions-là, est-ce qu'on est obligé de prendre le côté « je me laisse offenser »? Est-ce qu'on est obligé de prendre le côté « je vais répandre des calomnies, je vais parler » Est-ce qu'on est obligé de prendre ce côté-là? Non. On doit parler le même langage. Parce que moi, ce que je retiens d'ici, c'est quoi? C'est le jour où on va avoir le même cœur, le jour où on va parler le même langage, rien, rien, rien ne sera impossible. Et je le sais que tout à l'heure, quand je vous ai demandé de réfléchir sur comment vous verrez une église comme ci, comme ci, comme ça, il y en a certains d'entre vous qui ont commencé à rêver. Comment certains d'entre vous qui ont commencé à se dire, waouh. Mais je vous dis, si on a le même langage, ce que vous avez vu, c'est pas impossible. Amen? Et non seulement c'est pas impossible, mais ici ça va plus loin. Ça nous dit quoi? Ça nous dit rien. Rien ne pourra les empêcher. Hein? Rien ne pourra les empêcher. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise. On s'organise pourquoi? Parce que eux-mêmes, même si leur motivation, on l'a dit encore une fois, n'était pas bonne, là. C'était pour la gloire de l'homme, c'était pour se faire un nom. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. Ah, ils ont dit plutôt, au verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et les briques nous serviront pour pierre, bitume. Ils se sont organisés. Amen. Ils ont eu un objectif. Peu importe l'objectif. Ils ont eu un objectif. C'était quoi? On va se bâtir une tour. Ensuite, organisons-nous. On va faire des pierres, on va faire ci, on va faire ça. Et Dieu dit, waouh, si on fait rien, ils vont y arriver. Il n'y a rien qui sera impossible. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous mis en accord. Non seulement sur la motivation, mais sur ce qu'ils désiraient atteindre. Donc, si c'est bon pour des gens qui avaient des mauvais motifs, à combien plus forte raison si nous, ensemble, sommes motivés par l'amour, motivés par la gloire de Dieu, motivés par voir les vies sauvées, à combien plus forte raison si nous venons ensemble, rien ne pourra nous empêcher d'accomplir les plans que Dieu a établis avant la fondation du monde, non seulement pour cette église, mais pour cette ville et chacune de nos vies, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, si vous vivez pas encore dans la totalité de ce que Dieu promet dans vos vies, je vous dis, gardez la tête haute, il y a de l'espoir, parce que Dieu ne nous a pas réservé à être la queue, mais bien à être la tête. Il ne nous a pas réservé à souffrir, il ne nous a pas réservé à être sous la maladie, sous les problèmes, mais au contraire, il nous a appelé à être assis avec lui, en haut, à la droite, et même au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Et que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise. Parce qu'il y a un temps où vient un temps où il faut mettre le naturel afin de faire place au surnaturel. Il y a un temps où il faut construire avec nos mains une arche pour préparer les animaux sur que le Seigneur va amener surnaturellement. Il y a un temps où il faut prendre le bâton naturel que nous avons dans nos mains et frapper sur la mer pour que Dieu puisse l'ouvrir surnaturellement. Il y a un temps où on doit prendre les poissons et les pains que nous avons naturellement. Il y a un temps où on doit assir les gens qui sont là en groupe de 50, en groupe de 100, et partager ce que nous avons dans nos mains pour laisser place au surnaturel de Dieu. Et vient un temps pour nous aujourd'hui à la vie comblée, où nous avons besoin de prendre ce que nous avons dans nos mains et de faire place à la pluie surnaturelle que le Seigneur va envoyer ici dans cette église. Parce que je vous dis, mes amis, ça va être beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, et même que tout ce que vous pourriez imaginer, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 3, verset 19 et 20, parce qu'il est capable, à celui qui fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou imaginer. Amen. Donc, osez rêver, parce qu'une fois que vous allez rêver, dites-vous que c'est rien, vous n'avez rien vu. Il est capable de faire beaucoup plus que ça. Donc, c'est le temps pour nous de nous organiser. C'est le temps pour nous d'arrêter de dire, « Oh, on a seulement 5 poissons, on a seulement 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Le Seigneur dit, assoyez-les en groupe de 50, de 100. Et pour nous, c'est le temps de faire ça. Là. Nous en sommes là. On ne se focus pas sur le poisson. On ne se focus pas sur le pain. On focus sur celui qui pourvoit. Amen. Notre responsabilité, Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Le Seigneur a dit, écoute, renvoie la foule, il se fait tard, il faut qu'ils retournent chez eux, ils vont avoir faim, on n'a rien. Et même avec tout l'argent que nous avons, même si on mettait tout l'argent que nous avons ensemble, on n'en aurait même pas assez pour nourrir toute la foule. Hein, des fois, on peut regarder ça, on n'avait pas assez d'argent, pas assez de ci, pas assez de ça. Et là, on se retourne vers le Seigneur et on crie, on pleure, qu'est-ce qu'on va faire, comment? Et le Seigneur répond, donnez-leur vous-même à manger. Donc, notre part, c'est quoi? Notre part, c'est ramasser la pierre. Parce qu'on s'entend qu'avec une pierre, tuer un géant, c'est humainement impossible. On s'entend que marcher dans le feu, en sortir indemne, sans être brûlé, même pas brûlé, sans même sentir le feu, c'est humainement impossible. On s'entend que de voir la mer s'ouvrir en nous, devant nous comme ça, c'est humainement impossible. De marcher sur l'eau, c'est humainement impossible. Mais on sert un Dieu de l'impossible. Donc, c'est à nous maintenant de dire, comment est-ce qu'on est prêt à se préparer? OK. On va les asseoir, les gens, en groupe de 50, en groupe de 100. Parce qu'à quelque part, lorsque vous lisez votre parole, est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a quelque chose digne d'être raconté dans la parole de Dieu qui met de côté la puissance de Dieu? Qui met de côté l'intervention divine? Que dans toutes les histoires même qui sont racontées dans l'école du dimanche avec les enfants, chacune de ces histoires ramène à quoi? Ramène à une intervention divine, une intervention de la parole de Dieu. Ramène au fait qu'un jour des hommes ont été confrontés à l'impossible, mais Dieu est arrivé, est intervenu et a réussi à réaliser ce qui pour nous était impossible. Pour nous, c'est humainement impossible de sauver les gens. Pour nous, c'est humainement impossible de dire, bon, mais écoute, on va travailler, hein, on va ramer fort pour remplir cette église-là. On va se brûler. Au contraire, on a besoin de s'assurer d'avoir le même cœur, de s'assurer de ramer au même rythme et de faire la place pour le divin. Parce que Noé a dû obéir. La promesse de Dieu, c'était quoi? Je vais les envoyer les animaux. Mais toi, tu dois préparer une arche. Est-ce que votre foi est rendue au point que vous êtes prêt à préparer l'arche pour recevoir les choses que Dieu a dans votre vie? Parce que je vous rappelle qu'il a préparé. Il a fabriqué une arche alors qu'il n'y avait pas de pluie. Amen. Il n'y avait pas de pluie, là. Non seulement il n'y avait pas de pluie, mais ça faisait des années qu'il n'y avait pas de pluie. Est-ce que vous êtes prêt à fidèlement continuer à préparer l'arche dans votre vie, même si ça fait des années que vous attendez la promesse de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à continuer à fabriquer cette arche-là? Est-ce que vous êtes prêt à continuer à fabriquer malgré ce que les gens vont vous dire? Abandonne. Tu mérites mieux. Voici, fais ça. Oui, mais si Dieu t'avait vraiment parlé, est-ce que tu es certain que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que vous êtes prêt? Donc aujourd'hui, en tant qu'Église, on se prépare. On se prépare à recevoir. Moi, je me prépare à recevoir la pluie. Je me prépare à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Que si le grenier n'est pas assez grand, il me dit « construisons un plus grand, on va en construire un plus grand. » Oui, mais ça l'a vide. OK. L'arche aussi avait l'air vide. Avait surtout l'air inutile. Amen? Mais c'est avéré plus qu'utile. Donc, on s'organise comment? Ici, à la vie comblée, on s'organise en équipe. Amen? On s'organise en équipe. On veut travailler ensemble. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, dès le début, c'était quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson qui envoie les ouvriers dans sa moisson. Donc, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur suite à ce verset-là, c'est quoi? C'est de préparer les ouvriers pour la moisson, parce qu'il y aura une moisson. Quand, comment, de quel niveau? Je ne pense pas que les apôtres s'attendaient à ce qu'il y ait 3000 personnes d'un jour comme ça qui viennent au Seigneur. Le reste, ça ne m'appartient pas. Le reste, ça ne nous appartient pas. Si le Seigneur nous dit, préparez-vous pour la moisson, parce que certainement il y aura une moisson. Prépare l'arche, parce que certainement il y aura de la pluie. C'est pas à moi d'aller sur Météo Média et de dire, écoute, Seigneur, ça fait 3 mois qu'il ne pleut pas, puis dans 2 semaines, il n'annonce pas plus de pluie, là. Non. Certainement, il y aura une moisson. Certainement, il y aura une moisson. Donc, on se prépare en équipe. Il y a des gens, des hommes et des femmes fidèles, des gens qui se sont élevés. Puis je vais juste prendre quelques instants pour les présenter, ces responsables d'équipe-là. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'Église, on a regardé où est-ce qu'on veut aller, on a regardé comment est-ce qu'on peut diviser cette Église-là en besoins, en visions, en choses qu'on veut accomplir, et on fait des équipes. On fait des équipes pourquoi? Pour qu'on soit justement plus solides les uns envers les autres, pour que le temps du cavalier seul, solitaire, c'est révolu ça. On veut que chaque personne puisse être entourée dans son ministère, parce qu'on travaille beaucoup mieux et plus fort ensemble. Plus mieux, c'est vraiment mieux. Hein? Donc, je vais nommer certains responsables, et quand je vous nomme, je veux juste que vous leviez. Amen. Donc, on a M. Serge Dionne qui est là, qui est un homme qui aime rester dans l'ombre, mais là, je lui ai dit aujourd'hui de mettre une cravate, mais au moins, bon, il n'a pas voulu. Il faut régler ça plus tard. Non, sincèrement, Serge Dionne, qui est responsable au niveau du bâtiment et au niveau également de tout ce qui est sonorisation, son. On a Dominique aussi, Charlotte, tu peux te lever, Dominique, qui est responsable, qui s'occupe du ministère du pain quotidien, qui s'occupe aussi de l'entretien ménager ici dans la bâtisse. Amen. Nous avons également Ginette, pasteur Ginette Voisclair, qui est ici, qui s'occupe des mercredis, de coordonner tout ce qui est mercredi soir et également du ministère des femmes, pardon. Amen, on continue. Okay. Nous avons également Daniel Aymon qui est là, qui s'occupe, lui, de tout ce qui est finance et comptabilité. Amen, merci Daniel. Et sa ravissante épouse, Céline de Grandpré, qui est là également, qui s'occupe de la louange, de l'équipe de louange, de la musique. Wow, OK, on continue. Nous avons aussi, là j'ai dit à ma femme de regarder ma liste, parce que là, j'ai dit, je ne veux pas oublier personne. OK? On a aussi, ben justement, parlant de ma femme, Valérie, qui s'occupe des enfants, de tout ce qui est ministère des enfants, qui s'occupe aussi de tout ce qui est accueil, hospitalité également. Et puis, Roxane François, sont où Roxane François? Debout, debout, oui, oui, oui. Qui, j'en profite justement pour annoncer cela, amen, Roxane et François, qui vont prendre la relève de Valérie et moi-même au niveau du ministère de la jeunesse, amen. Parce que, évidemment, pour nous, c'est une nouvelle saison. Okay? Et pendant les sept, oui, oui. Pendant les sept dernières années, ma femme et moi, fidèlement, tous les vendredis, on a été ici pour s'occuper des jeunes. Mais même avant que le Seigneur nous a mis dans notre cœur qu'on allait prendre la charge de cette église-là, il nous avait déjà dit qu'il était temps de commencer à chercher la relève pour la jeunesse. Donc là, voilà, on passe à autre chose, puis ils ont vraiment ce cœur-là pour ces jeunes. Puis, il y a certains autres responsables qui ne pouvaient pas être ici, malheureusement, ce matin. Donc, je pense à Laurie, qui s'occupe du secrétariat, et également Pasteur John, Denise et Jean Côté, qui sont également impliqués énormément au niveau du leadership. Mais ce n'est pas tout. Amen. Je vous ai nommé seulement quelques responsables, mais avec ces responsables-là, il y a plein de gens. Écoute, il y a beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup plus que les responsables qui aident, qui font quelque chose. Amen. Et c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Il y a des équipes qui sont sur papier, amen, et que j'attends juste de voir la réalisation, les gens qui vont se manifester, qui viennent pour mettre ces équipes-là sur papier, pour mettre les équipes sur papier en action. Amen. Et dans tout ça, il y a une place pour vous. Il y a une place pour vous. Parce que comme je vous ai dit, moi, je suis convaincu. Je ne serais pas ici debout devant vous si je n'étais pas convaincu que la vision et la mission de l'Église, la vie comblée, en était une divine. Amen. Et je ne serais pas ici devant vous si je n'étais pas convaincu que ce que le Seigneur m'a montré allait un jour se réaliser. Et en fait, aujourd'hui, c'est une invitation à fêter avec nous. Pourquoi fêter avec nous? Parce que ça va être une grande fête, une réjouissance. Une joie. Je vais vous inviter à faire plus que, hein, vous savez, quand on va à la ronde ou à ces places-là, les gens écrivent, mettons, « Oh, Jonathan was here, 1900... » Tu comprends? Les gens gravent partout. « Oh, Julie, Stéphanie était ici, ta-ta-ta. » Mais je vais vous permettre de dire plus que, « Oh, j'étais ici. » Parce qu'il y a une chose, c'est une chose d'être ici, mais c'est autre chose d'avoir participé. C'est autre chose de dire hey, j'étais là dans les estrades à la finale, la Coupe Stanley telle année. Mais c'est autre chose d'avoir ton nom sur la coupe. Amen. OK? C'est autre chose. Et je veux tous qu'on ait notre nom sur la coupe. Je veux tous que le jour où on va lever cette coupe-là, on va tous pouvoir dire. Se taper les uns les autres, dire « Wow, on a tenu jusqu'au bout. On a achevé la course. » Amen. Je vais inviter l'équipe de louange, si vous voulez. Et il y a beaucoup d'autres choses dans mon cœur que, tranquillement, je vais partager avec vous. Mais moi, je suis encouragé. Très encouragé. Je suis encouragé parce que, jour après jour, je vois la direction que nous sommes en train de prendre. Je suis encouragé parce que, jour après jour, je sais que nous allons dans la direction que le Seigneur nous a montrée. Je suis encouragé parce que j'ai la certitude, la conviction que le Seigneur m'a demandé de laisser mon emploi, de quitter mon emploi, et de m'investir à temps plein dans le ministère. Et je sais que si le Seigneur m'a demandé ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Amen. Je ne sais pas quel autre mot que je peux employer pour vous dire je suis convaincu. Hein? Quand je regarde les choses pour l'Église, quand moi je rêve, quand j'imagine, quand je mets les choses sur papier, quand je prie pour l'Église, je vais vous dire une chose, je le fais avec le sourire. Je le fais avec le sourire, pourquoi? Parce que c'est en regardant justement la joie à venir Que je me dis, s'il faut passer par là, Seigneur, pour en arriver à ce que tu as, go, on y va. Vous savez que pour se rendre quelque part, des fois, il faut passer à travers des chemins un peu plus rocailleux, des chemins un peu plus difficiles. Des fois, il y a des détours à faire ou peu importe. Mais il y a une chose dont je suis convaincu. Je vous le dis. Que même si je suis le dernier debout à continuer à marcher vers cette direction-là, je vais continuer. Il n'est pas question d'abandonner. Mais encore une fois, j'aimerais ça me retourner et voir toute une multitude de gens qui ont un même cœur, une même âme, qui marchent pas seulement avec moi, mais on marche ensemble, les uns avec les autres. On a chacun reçu une rame, amen. Tout le monde a reçu une rame. Vous êtes nés de nouveau, le Seigneur vous a donné une rame. C'est à nous maintenant de savoir comment s'en servir. C'est quoi cette rame-là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec, Seigneur? C'est pour ça que c'est important pour chacun de nous de trouver sa place dans le corps, que ce soit de trouver l'église où le Seigneur nous appelle. Mais une fois que vous avez trouvé l'église où le Seigneur vous appelle, c'est maintenant à vous de regarder, bon, comment, Seigneur, si tu m'as appelé dans cette église, si tu m'as appelé dans cette partie de ton corps et que tu m'as donné cette rame-là, comment est-ce que tu désires donc que je me serve de cette rame-là? Amen. Et pour vous aider, c'est pour ça qu'on a mis sur pied les cours « Bâtir sur le roc » DLVC, pardon, « Découvrir la vie comblée ». On se dit « Ah oui, des cours, pourquoi des cours? Est-ce que j'ai besoin de faire des cours pour servir? » Non. Mais si on veut marcher d'un même pas, si on veut marcher d'un même cœur, c'est important pour nous de partir avec la même motivation. C'est important pour nous de nous accorder sur les mêmes choses. C'est pour ça qu'on regarde ensemble, je vous invite à vous inscrire si vous n'avez pas fait ces cours-là, demandez des informations. Donc, bâtir sur le roc, on regarde quoi? On regarde les fondements de la parole de Dieu, la nouvelle naissance, le salut, le baptême du Saint-Esprit, des choses comme ça. Pour qu'on soit sûr et solide d'être ancré dans les mêmes, dans les mêmes fondations. Par la suite, on voit la vie comme son enfant et on regarde non seulement le rôle du pasteur, mais on regarde le fait que l'Église, en fait, c'est une famille où chacun d'entre nous sommes appelés, comme dans les membres d'une famille, à amener ce que le Seigneur nous a donné. Ensuite, comme son disciple, on voit les habitudes de ces de disciples. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc, on vous aide à connaître ces choses-là, ces bases-là, et à vous ancrer, parce que notre but, c'est quoi? Notre but, c'est de vous aider à devenir tout ce que le Seigneur vous appelle à devenir. Notre but, c'est quoi? C'est que vous ayez cette rame-là dans vos mains, que vous ne soyez pas en train de vous demander, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est là que, comme son serviteur arrive, on vous aide à identifier vos dons, vos talents, vos goûts. Et par la suite, on vous encourage et on vous aide à faire partie de l'Église, à faire partie d'une équipe. On vous encourage à faire partie d'une équipe. Et lorsque vous allez sortir d'ici aujourd'hui, on a préparé juste un petit document comme ça, nos ministères. Amen. J'invite chaque personne, avant de quitter, d'en prendre un. Ça vous explique tous les ministères ici à l'Église, la vie comblée. Qu'est-ce qui se passe à l'Église? Vous allez voir, il y a des choses que peut-être vous n'étiez même pas au courant qu'il y a. Vous allez voir des choses, peut-être vous allez dire, ah oui, c'est écrit là-dedans, mais je ne le vois pas. Justement, c'est là qu'on a besoin de vous. Amen. Encore une fois, c'est quoi ça? C'est une invitation. C'est une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Je lisais dans le journal un article des gens qui nous disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui s'en allaient avec les groupes radicaux, les groupes islamistes, les groupes terroristes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient un sentiment d'appartenance, ils cherchaient une raison à leur vie, ils cherchaient une motivation pour leur vie. Et à travers ces groupes-là, aussi radicaux qu'ils puissent être, ils trouvaient un sens à leur vie, ils trouvaient un but à leur vie. Wow! Mais c'est pas étonnant, Dieu nous a créés comme ça. Dieu a créé chaque homme avec cette vision de l'éternité-là, avec cette vision que je suis ici pour quelque chose. Hein? Tu es ici pour quelque chose. Hein? Tu n'es pas sur la terre par hasard. Et Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Et malgré toutes les choses que tu as pu passer dans ta vie, sache que Dieu était avec toi à chacun de ces moments-là. Et qu'alors que tu vas te rapprocher de lui, qu'alors que tu vas lui faire confiance, il va guérir ce qu'il y a dans ton cœur. Et non seulement il va guérir ce qu'il y a dans ton cœur, mais il va te révéler la vraie image qu'il a de toi. Parce que tout ce que tu as vécu t'a donné une image qui n'est pas la vraie image de toi. Amen. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir le salut gratuit, le pardon gratuit, cette promesse d'une vie éternelle, comme on l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il nous aime et qu'il veut nous racheter, racheter de toutes les erreurs, racheter de tous les péchés, racheter de tous les manquements qu'on a pu faire et le sacrifice qu'il avait de meilleur ici pour nous. Donc, si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas la certitude, l'assurance d'avoir le Seigneur Jésus avec vous, d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire quoi? Que si aujourd'hui, amen, ça s'arrêtait aujourd'hui pour vous, est-ce que vous avez l'assurance que vous auriez au ciel avec le Seigneur? Donc, je vous donne l'opportunité ce matin de faire du Seigneur Jésus non seulement votre maître, non seulement votre sauveur, mais votre Seigneur. Celui à qui vous dites aujourd'hui, je te donne tout. Je te donne tout, je te donne le contrôle. J'ai essayé tellement longtemps dans ma vie de retenir, de contrôler, mais aujourd'hui, j'en peux plus. Aujourd'hui, peut-être je comprends pas complètement, mais aujourd'hui, ça y est, je te donne tout. Donc avant de partir ce matin, je veux faire cet appel-là ici à quelqu'un dans la salle qui veut répondre à cet appel-là. Mais je vous demande tout simplement de vous lever, de venir avec moi devant maintenant. Amen, on va prier ensemble maintenant. Amen, si vous voulez tout donner au Seigneur, tout mettre de côté, lui donner ça pour la première fois. Alléluia. Sinon, mais je vous invite à sonder vos cœurs. Je vous invite à regarder dans vos mains cette rame que le Seigneur vous a donnée. On peut arriver tous à un moment comme Moïse où on se demande, on se dit, on n'a rien. Et le Seigneur nous répond, qu'as-tu dans ta main? Je vous invite cette semaine à méditer sur cette question. À demander au Seigneur, qu'as-tu mis dans mes mains? Qu'as-tu mis dans mes mains que tu désires que je sème, que je mette, pas au service de l'Église, là, à ton service. Parce qu'encore une fois, on se rappelle l'Église, c'est quoi l'Église? C'est nous. Donc c'est au service de nos frères et de nos sœurs. Amen, alléluia. On va se lever, on va terminer en prière ensemble. Donc, Seigneur, on te remercie, alléluia. On te remercie pour ton amour. On te remercie pour cet amour que tu as mis en chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, Seigneur, on désire être des vaisseaux de cet amour. On désire être des témoignages de cet amour autour de nous, alléluia. Oh oui, que le monde voit que nous sommes tes disciples, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés, tu nous as connus avant la fondation du monde, Seigneur. Tu as des plans merveilleux pour nous, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, on te pose cette question, Seigneur, qu'as-tu mis dans nos mains? Oui, on te la pose avec foi, parce que la réalité, c'est que tu as mis quelque chose dans chacune de nos mains. Éclaire nos yeux, Seigneur, si pour aujourd'hui, on n'arrive pas à voir l'étendue de tout ce que tu as mis dans nos mains. Mais on te remercie d'avance, parce que par ton Saint-Esprit, il va nous diriger dans cette vérité également. Dans cette vérité de reconnaître qui nous sommes réellement à ton image. Cette identité que tu nous as donnée, cette autorité que tu nous as donnée. Donc merci Seigneur, que nous grandissons de jour en jour, oh de gloire en gloire, en ton image Seigneur, alléluia. Oh, sois élevé, sois glorifié, alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Merci papa, oh alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, amen, 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 amen. Donc, wow, alléluia, soyez bénis, n'oubliez pas, oh, Coria Chanto Robosa, alléluia, méditez ces choses. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Oh, alléluia. N'oubliez pas, mesdames, conférence, inscrivez-vous. Je vous invite chacun à prendre un petit livret, amen, de nos ministères. Voyez ce qui se fait. Prenez ce livret-là, priez là-dessus, mettez ça devant la face de Dieu, amen. Mais c'est une invitation à vous joindre à nous. Soyez bénis. Bonne semaine, tout le monde.